17h sur le poste national de la CRTV. Le journal vous est présenté par Marie-Monique Mbozo. Madame, monsieur, bon après-midi, les titres du journal. Âge 2024, les pèlerins camerounais regagnent leur pays par contingent. Le dispositif sanitaire est mis en place pour s'assurer de leur état de santé au moment où dans certains pays africains, des pèlerins sont testés positifs au coronavirus. Bonne nouvelle, tous les pèlerins des quatre premiers contingents sont en bonne santé. Projet intégré Nabiba au Congo et Mbalam au Cameroun, la première production industrielle de fer annoncée au mois de novembre 2024. C'est la trame de la chronique CEMAC. Puis en sport handball, la troisième journée du championnat national d'élite prend fin ce dimanche à l'affiche 5 matchs au complexe de l'université de Yaoundé 1. Et nous ouvrons ce journal par des nouvelles du côté de l'Assemblée du Sénat. La Commission des affaires culturelles du Sénat a examiné ce jour le projet de loi régissant les archives au Cameroun. Le texte a été défendu par le ministre des Arts et de la Culture, Bidoumpat. Les travaux étaient présidés par le sénateur Enola Fonema Verguilé, la présidente de la Commission des affaires culturelles. Le point avec Julienne Pongono.
Près de 3 heures, c'est le temps qu'aura duré l'examen au fond du projet de loi régissant les archives au Cameroun. Occasion pour le ministre des Arts et de la Culture, Bidoumpat, d'expliquer aux membres de la Commission des affaires culturelles l'importance de ce texte qui vise à actualiser la loi du 19 décembre 2000 régissant les archives au Cameroun.
Il s'agit de la structuration du système national d'archivage. Car la gestion des archives au Cameroun est confrontée à divers problèmes. Le nouveau projet de loi intègre plusieurs innovations. Il permettra tout simplement au système national d'archivage de s'arrimer aux standards internationaux.
Pour le sénateur Anaclet Fomete, la question des archives est fondamentale dans un état de droit.
Et nos préoccupations ont porté sur un certain nombre de clarifications. Ce texte a donné des définitions très claires permettant que les questions, par exemple, de classement puissent être adressées. Ensuite, nous avons eu des informations par rapport au système de financement. Le caractère stratégique de l'organisation des archives a été mis en exergue comme une grande innovation.
Le projet de loi régissant les archives au Cameroun va permettre de moderniser le système actuel en le dotant d'un cadre juridique plus approprié. Il va également créer une plus-value en termes de ressources humaines à travers la dynamisation de l'archive électronique.
La plus belle fille du Cameroun cette année 2024 s'appelle Njikam Noura, candidate de la région du Nord. Le jury de la 17e édition a rendu son verdict hier soir. Une soirée présidée par la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, qui a personnellement remis la couronne à Miss Cameroun 2024. Cette dernière place son mandat sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Joseph Clément Ongba.
Elles étaient 27 sur la ligne de départ. 27 reines de beauté sélectionnées des 10 régions du Cameroun. Sur les planches du palais polyvalent des sports de Yaoundé, toutes rivalisent de beauté, d'éloquence, d'élégance et de prestance pour convaincre le jury. Au final, la candidate du Nord, Njikam Noura, est élue Miss Cameroun 2024. Avec émotion, elle reçoit sa couronne des mains de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya.
Quelque chose de très important pour moi, que la première dame me remette la couronne, c'est un sentiment de fierté que je porterai toujours à cœur. Je vais m'accentuer sur la réintégration des victimes de violences sexistes et sexuelles. Je vais soutenir les femmes dans les formations.
Respectivement première et deuxième dauphine, Foué Vanessa Gaël, Audrey du Centre et Aïchatou Bobo de la Damawa, félicitées par le ministre des Arts et de la Culture, Bidoumpat, qui leur remet leurs écharpes. Le comité d'organisation de Miss Cameroun, Comica, s'est réjoui du grand gala culturel. Solange Ingrid Amougou, présidente fondatrice du Comica.
Sentiment de satisfaction et de gratitude envers la première dame, notre marraine, qui nous soutient depuis la première édition et de tout le gouvernement camerounais parce que ce que j'ai vu là, vraiment pour une première, je suis vraiment satisfaite et je remercie tout le public qui était là, les médias qui nous ont accompagnés.
Miss Cameroun 2024 succède à Princesse Ndoum Issié. Elle entend mettre son mandat au service de la lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. C'est aussi le thème de cette 17e édition qui s'y est parfaitement avec les causes que défend la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. Elle aura donné un éclat particulier, un rendez-vous culturel devenu incontournable depuis 21 ans. Avec de belles mélodies, cette 17e édition est assurément couronnée de succès.
À juin 2024, la valse des arrivées se poursuit à l'aéroport international de Garoua. Le 5e contingent des pèlerins en provenance de Jeddah en Arabie Saoudite est attendu cette fin d'après-midi dans le nord. Et ceux qui ont déjà rallié la ville de Garoua communient avec leurs proches, amis et connaissances. Iya Chanlim de Siar TV Nord.
Au sein de la famille Gambo à Garoua, la chaleur des retrouvailles après une vingtaine de jours consacrés au Hajj sonne le glas de la solitude observée pendant l'absence de leur maman. Sharifa Mouamadou.
On a passé une fête de moutons sans aile. Depuis qu'elle est rentrée, c'est la fête à la maison. On reçoit énormément de gens.
Ici, la maison a reçu une cure de jouvence pour accueillir à bras ouverts l'appelé d'Allah et ses hôtes.
Pour moi, c'est une très grande joie de voir une maman du camp, une mémé de nos enfants voyager. Elle est allée, elle est rentrée dans les bonnes conditions. On rend grâce à Dieu.
Pour ces visiteurs qui ne cessent de la fixer des yeux, renouer le contact avec elle dégage une expression de plénitude et d'assurance.
On a appris à la télévision qu'il y avait beaucoup de morts. Quand elle est arrivée là, nous sommes tellement fiers. Nous prions Dieu qu'il accepte son hajj.
En attendant que le cahier de ce retour au pays natal se referme, avec le 9e vol prévu le 5 juillet prochain, l'aéroport international de Garoua connaît une effervescence qui n'a d'égal que l'immensité de l'événement pour les pèlerins et leur famille. Garoua, Iya Chamalim, CR TV.
Le ministre de la Santé publique renforce son dispositif de surveillance à l'aéroport international de Garoua après que des pèlerins aient été testés positifs au coronavirus dans certains pays africains. Un dispositif sanitaire y est installé pour fixer les pèlerins sur leur état de santé avant de retrouver leur famille. De Garoua, le reportage de Ousmane Assanda.
La menace du coronavirus plane toujours dans le monde et dans les pays africains en particulier, surtout au lendemain du pèlerinage 2024 en Arabie Saoudite. Un rendez-vous spirituel qui a mobilisé plus de 2 millions de fidèles des quatre coins du globe. Une menace prise donc très au sérieux par le gouvernement camerounais. Sébastien Douka, coordonnateur régional du Centre régional de prévention et de lutte contre les épidémies à la délégation régionale MinSanté.
Les pèlerins ont coopéré par rapport aux mesures qui ont été mises en place. Nous leur demandons de continuer à observer les mesures barrières.
Parmi les 267 pèlerins de la deuxième vague arrivés ce mercredi à Garoua, nombreux d'entre eux, rassurés après avoir été testés négatifs au Covid-19, exhibent fièrement leurs résultats.
J'essaie de le faire surtout parce que c'est responsable pour protéger mes proches, ma famille et toutes les personnes qui viendront sûrement me souhaiter la bienvenue.
Mon test est négatif, donc je vais rentrer à la maison tranquillement. Et sans doute,
les autorités sanitaires qui se veulent rassurantes appellent les populations à la prudence et promettent de maintenir le dispositif de surveillance jusqu'à l'arrivée du dernier contingent des pèlerins à Garoua le 5 juillet prochain. Garoua, Ousmane Assanda, CR TV.
Disons que l'heure est à l'évaluation du Hajj 2024 et pour le pèlerin, il a été une réussite grâce à un meilleur encadrement par la Commission nationale du Hajj et au respect des instructions présidentielles relatives à un déplacement en toute dignité des fidèles. Constance.
14 vols au total à partir des 3 aéroports internationaux de Garoua, Douala et Yaoundé. La Commission nationale du Hajj, que préside le ministre de l'administration territoriale, a mis le paquet pour que tous les pèlerins voyagent dans des conditions idéales afin d'effectuer en toute sérénité le 5e pilier de l'islam. Plus de 4000 fidèles musulmans se sont ainsi rendus à la Mecque et vont retourner au Cameroun selon un chronogramme bien précis. Une meilleure organisation des voyages vers la Terre Sainte qui conduit depuis près de 5 ans à l'augmentation des pèlerins, certains de ne pas être abandonnés à la Mecque après le Hajj, comme cela était le cas auparavant. Mis à part les conditions de voyage dans des aéronefs à la qualité de service remarquable, les pèlerins camerounais ont encore bénéficié cette année de la sollicitude du président de la République qui a affrété en Arabie Saoudite une ambulance médicalisée pour une meilleure prise en charge et l'évacuation des cas graves des pèlerins camerounais malades. Par ailleurs, le chef de l'État Paul Biya a accordé une subvention de 1 milliard 560 millions de francs CFA pour réduire le coût du pèlerinage et permettre aux fidèles de rentrer avec des souvenirs du Hajj. Le président de la Commission nationale du Hajj, le ministre Paul Atanganji, a veillé au respect scrupuleux des instructions présidentielles en s'assurant que chaque pèlerin a reçu son enveloppe. Un déplacement en toute dignité des fidèles qui leur a permis d'être des dignes ambassadeurs du Cameroun en Terre Sainte.
17h11 sur le poste national de la CRTV. Les responsables du programme pour un développement durable des ressources naturelles dans le sud-ouest sont invités à travailler davantage pour la sauvegarde des dites ressources. Appel du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, s'exprimait lors de la réunion à Limbé du comité de pilotage du projet rendu à la cinquième phase. D'autres précisions avec Elisabeth Nathalisson de CRTV Ouest.
Le braconnage illégal, l'exploitation abusive des forêts sont entre autres freins à la protection des ressources naturelles. Ces ressources, l'eau, les plantes, les animaux, qui sont d'une grande importance pour l'environnement. La réunion du comité de pilotage du programme de gestion durable des ressources naturelles de la région du Sud-Ouest donne lieu à la mise sur pied des actions plus efficaces pour son implémentation effective. Le ministre des Forêts et de la Faune, qui s'est félicité des avancées sur le terrain, surtout avec l'appui de la République fédérale d'Allemagne à travers sa banque et le gouvernement camerounais à accompagner les projets de développement forestier. Jules Doré Ndongo a invité les acteurs et membres du comité impliqués dans la gestion des forêts à poursuivre les activités de sensibilisation, de préservation et de protection des ressources naturelles. Un financement de la banque allemande de 33,8 milliards de francs CFA, un montant qui va servir également à une partie de la phase 6. Elisabeth Nathalisson, Limbé, CRTV.
Dans le même chapitre, 221 millions de francs CFA prévus pour sauver la forêt communale de Pitois dans la région du Nord. La convention de restauration de ces terres protégées a été paraffée. Protégée a été par le maire de la commune de Pitois et le coordonnateur national de l'action pour la promotion de la santé, la production et l'environnement. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de lutte contre la désertification et le changement climatique. Charles Lebon-Louesso de CRTV Nord.
La région du Nord fait face au phénomène de dégradation des forêts et des paysages. La forêt communale de Pitois, située dans les localités mitoyennes de Boura et Tcholaram, n'échappe pas à cette réalité. C'est pour sauver cette forêt que la commune de Pitois vient de signer une convention d'un montant de 221 millions de francs CFA. Docteur Hamadou Gambo, coordonnateur national de l'action pour la promotion de la santé, la production et l'environnement.
Nous avons la commune, les communautés elles-mêmes, nous allons impulser une dynamique de concertation par rapport à chaque besoin exprimé par les communautés.
Ousmane Ahmad Sali, maire de Pitois, aux côtés des spécialistes, ont pris l'engagement en 18 mois de restaurer 300 hectares sur les 1000 surfaces globales de cette concession forestière. Tingjay Wolim, chef du village Tcholaram.
Nous voulons que Tcholaram et Mboura, les forêts soient bien et nous travaillons ensemble.
La démarche rentre dans le cadre de la mise en application de la politique gouvernementale du programme sectoriel forêt et environnement qui vise à apporter une solution dans la lutte contre les effets du changement climatique. Pitois, Charles Lebon-Louesso, CRTV.
Projet d'appui au développement des filières agricoles, une mission de contrôle conjointe, gouvernement du Cameroun et le Fonds international de développement FIDA séjournent dans la localité de Bandunga, dans l'Ndé, région de l'Ouest. Il est question de s'assurer de la bonne réalisation des ouvrages hydro-agricoles financés par la phase 2 du projet. La correspondance de Stéphane Francky-Cana de CRTV Ouest.
La filière riz est en pleine expansion dans le département d'Undé. À Badunga, la phase 2 du PATFA aménage 100 hectares de plus dans les bas-fonds. La mission conjointe du gouvernement à travers les ministères concernés et le FIDA est allée s'assurer de la bonne réalisation des ouvrages hydrauliques agricoles sur les sites de Elou et de Bingo. Denise Laroy, Amigim, délégué régional Minader Ouest.
Les aménagements aujourd'hui sont à 100%. À tout moment, la coordination nationale du PATFA 2 doit organiser la réception définitive afin de remettre ses infrastructures aux producteurs pour la production du riz irrigué.
La société coopérative des riziculteurs de l'arrondissement de Tonga, qui en est la principale bénéficiaire, compte 155 membres. Satisfait de l'accompagnement du projet à travers les appuis multiformes, plus de 200 tonnes ont été récoltées par les riziculteurs lors de la campagne 2023. Raphaël Biamou, président du conseil d'administration de la société coopérative des riziculteurs de Tonga.
Le PATFA 2 nous a gratifié avec l'aménagement des nouveaux sites. Ces aménagements de nouveaux sites vont permettre à la croissance des superficies cultivées.
Lancée en 2020, la deuxième phase du projet PATFA dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest s'étend jusqu'en 2026. Badunga, Stéphane Francky Kana, CRTV.
Et tout à fait autre chose, journée d'excellence scolaire ce samedi au collège catholique bilingue Saint-Benoît de Mvoli à Yaoundé. La cérémonie précédée d'une messe d'action de grâce a mobilisé la communauté éducative. À l'occasion, des récompenses ont été remises aux élèves et aux enseignants qui se sont démarqués par leur travail. Christelle Ngbaisso de CRTV Centre pour les détails.
Action de grâce pour les fruits récoltés en cette année scolaire 2023-2024. La communauté éducative du collège catholique bilingue Saint-Benoît de Mvoli à Yaoundé se réjouit au cours de la célébration eucharistique qui a ouvert la journée d'excellence scolaire. L'honneur est ensuite rendu aux meilleurs élèves, enseignants et parents. Joseph Richard Ewolondi, président de l'association des parents d'élèves.
Les parents, en tant que partenaires associés à la formation, à l'éducation de nos enfants, ont pensé au sein de l'association pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, la formation des enfants, en encourageant les plus méritants.
Les lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude.
Je suis heureuse et je remercie mes enseignants.
Ils me sentent très bien pour mes résultats. Je dis merci au principal pour les enseignants.
La communauté éducative du collège catholique bilingue Saint-Benoît de Mvoli à Yaoundé se sépare dans l'espoir de se retrouver le 24 août prochain pour célébrer la graduation des sortants du secondaire. Christelle Mbaïso dans le centre.
150 jeunes et femmes de la localité de Yem au Gabon formés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC reçoivent ce samedi leur parchemin. Il s'agit de la première cuvée sous-régionale formée par pendant six semaines en informatique pour leur autonomisation par les TIC selon les missions de cette chaire. L'événement rehaussé par la présence de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, Edith Félicie Noël Ngaïtozam, est en cours au palais Omnisport Omar Bongo Ondimba de Yem, d'où nous avons en ligne Agnès Sylvienne Anjama, envoyée spéciale. Bon après-midi Agnès Sylvienne.
Bon après-midi Marie-Monique Mbozo, bienvenue à Oyem où le palais des sports Omar Bongo Ondimba de 500 places a fait le plein d'œufs ce samedi après-midi pour cette cérémonie de remise d'attestation à 150 jeunes et femmes formés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale et l'IAI Cameroun en bureautique, maintenance informatique et installation des kits solaires. L'apothéose de cette session de formation de 6 semaines donne lieu à une cérémonie solennelle en présence de Madame l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, Nga Etogozam, Edith Félicine Noël, des autorités gabonaises du Wolontem, des populations venues massivement féliciter les lauréats et les porteurs de ce projet d'arrimage au numérique. Le parrain de la promotion, le ministre des Comptes publics du Gabon, Charles Mba, parle d'une volonté de rendre autonomes les jeunes de sa contrée, tandis que le titulaire de la chaire, Armand Claude Abanda, souligne le caractère intégrateur de la chaire UNESCO pour l'accès au TIC de tous en Afrique centrale. Et c'est au rythme des sons du terroir que cette cérémonie de remise des parchemins se poursuit au Pobo d'Oyem, d'où je signe Agnès Sylvienne Anzama, CRTV.
Un retour au pays et cette fois nous parlons religion. L'archidiocèse de Bamenda vient de s'enrichir de 7 prêtres et de 11 diacres. Ces nouveaux serviteurs de Dieu ont pris l'engagement de confier leur vie au service de l'Église et de l'humanité. La messe d'ordination s'est tenue ce samedi à l'esplanade de la cathédrale Big Macon de Bamenda. L'archevêque métropolitain André Nkea les a exhortés à être des serviteurs soumis et disponibles. Laurent Chisoukbe, CRTV Nord-Ouest.
Do you promise respect and obedience to me and to my legitimate successors?
I do.
Ils sont désormais investis d'une mission pastorale, celle d'aller prêcher la bonne nouvelle partout où besoin sera. Prêtres et diacres, 18 au total, dans un contexte comme celui du Nord-Ouest, ont besoin de s'investir davantage pour ramener les brebis égarées. Comme l'a souligné dans son homélie de circonstances, Monseigneur André Nkea, l'archevêque métropolitain de Bamenda.
Chaque prêtre, chaque diacre doit être prêt à prêcher l'évangile dans le monde entier, n'importe où il est. Il existe pour l'Église, il existe pour le Christ et sa vie, ce n'est plus pour lui, c'est pour l'humanité.
Parmi les 11 diacres ordonnés figurent deux centrafricains envoyés par l'archidiocèse de Bangui.
Je m'appelle Vianney Martial Doro Zerento. Le cardinal Diodenis Apalenga m'a envoyé ici pour étudier en théologie en anglais. La formation, les études, la discipline aussi, ça a eu un impact et je suis prêt à aller partout pour la mission de Dieu.
La messe d'ordination, une tradition de l'Église catholique, respecte de bout en bout devant une foule de fidèles, familles et amis. Monseigneur André Nkea s'est appuyé tout au long de son homélie sur Pierre et Paul, des personnages bibliques qui ont passé toute leur vie à servir Dieu, comme pour dire, vous êtes désormais à l'image de ceux-là. Hope Station Bamenda, Laurent Chisoukbe, CRTV.
Cérémonie similaire à l'esplanade de la cathédrale Saint-Joseph de Kribi dans le sud. Monseigneur Damas Zinga Tangana, évêque du diocèse de Kribi, en imposant les mains à ses nouveaux bergers, leur a demandé d'exercer une pastorale de proximité pour davantage évangéliser les masses et répandre les saintes écritures. Dieudonné Noira à Kribi.
6 nouveaux serviteurs de Dieu, un diacre et 5 prêtres, ont été ordonnés par Monseigneur Damas Zinga Tangana à l'esplanade de la cathédrale Saint-Joseph de Kribi. Le temple de Dieu lui-même s'étant révélé très petit pour accueillir les nombreux fidèles venus assister à cette messe, un jour exceptionnel et de grâce pour ces jeunes qui rentrent dans le ministère du presbytérat et celui du diaconat.
Demander à Dieu de nous accorder une foi qui prie, sentiment de joie, de reconnaissance envers Dieu.
La seule chose que je peux promettre à mon diocèse, c'est de me rendre disponible pour le service.
En imposant donc les mains à ces candidats, lors des rites d'engagement et rites essentiels, l'évêque du diocèse de Kribi, Monseigneur Damas Zinga Tangana, leur a demandé d'accepter d'être des martyrs et des modèles pour le peuple de Dieu.
C'est la solennité de Pierre et Paul, colonnes de l'Église et martyrs, qu'ils sachent donc pouvoir se conformer au Christ et suivre l'exemple de ces deux grands martyrs, et qu'ils sachent que le sacerdoce, c'est le martyr. Qu'ils ne fassent pas une pastorale sélective, qu'ils s'occupent de toute personne.
L'Église catholique et romaine s'enrichit donc de nouveaux bergers qui rentrent dans le ministère sacré pour davantage évangéliser les masses et répandre la parole de Dieu. Kribi, Dieudonné Noira, CRTV.
Et nous voici en sport, handball, championnat national d'élite. La 3e journée prend fin ce dimanche. 5 matchs vont se disputer sur le terrain annexe et principal du complexe La Concorde de l'Université de Yaoundé 1. À l'affiche, 2 rencontres chez les messieurs. Le derby FAP contre Friendship de Yaoundé et le duel Fondation André Nziko contre les Spartiates de Yaoundé. En jeu de ces oppositions, le leadership des poules A et B. Les dames se déploient aussi à la faveur de 3 rencontres. Guide des affiches, Russell Oriani.
Les forces armées et police et Friendship de Yaoundé vont s'étriper sur le terrain du complexe La Concorde ce dimanche dès 12h. C'est une lutte fratricide pour le leadership de la poule B. Elle met en opposition 2 rivaux encore invaincus au terme des 2 premières journées. Léger avantage pour le club Friendship qui tient actuellement les commandes du groupe. En face se trouve une équipe de FAP qui a laissé échapper un point lors de son dernier match. Cette explication chaude en perspective va se produire après une confrontation digne d'intérêt elle aussi, La fondation André Zeko, première de la poule A, accueille les Spartiates de Yaoundé, première puissance offensive du groupe avec 70 pions inscrits. Les dames entrent en scène à l'occasion de ce dimanche handball. Le Tonnerre Kalara Club, pour l'instant deuxième de la poule A, reçoit le Yaoundé University Club, installé au sommet du classement. Les joueuses du Youk effectuent un parcours flamboyant, porté par la bagatelle de 83 buts marqués, l'attaque la plus aboutie du tableau féminin. L'affrontement a lieu à partir de 9h sur le terrain annexe du complexe La Concorde. Par ailleurs, théâtre des explications entre la fondation André Zeko Dam, leader de la poule B, et les Divas de Bafoussam, troisième du classement. Le dernier match féminin se dispute sur le terrain principal, une rencontre de la poule B. Les Tigresses de Batienga, en roue libre, 0 point dans l'escarcelle, défient l'effectif de Fab Dam, deuxième de la poule B.
La chronique CEMAC de ce journal met un point d'honneur sur la première production industrielle de fer du projet intégré Nabiba au Congo et Mbalam au Cameroun. Et cette production sera disponible donc au mois de novembre 2024, comme annoncé. Le projet intégrateur décidé par les chefs d'État du Cameroun et du Congo est un condensé de richesses, c'est ce que nous révèle dans la chronique CEMAC Sylvain Yangman.
Cela fait bientôt 4 ans que les plus hautes autorités des États du Cameroun et du Congo dans la zone CEMAC ont décidé de faire passer leur ambition en un projet concret. Cela après 2 décennies de mûres réflexions. C'est-à-dire donner corps à l'exploitation industrielle des gigantesques gisements de minerais de fer dont regorge le craton du Kasaï, Congo, notamment les gisements de fer d'Avima, Badondo et Nabeba, situés au nord-est du Congo, et Mbalam, en territoire camerounais. Ces autorités camerounaises et congolaises ont alors décidé de faire confiance à une ingénierie technique et financière innovante qui garantit, selon les experts du domaine, outre la rentabilité du méga-projet, projet minier commun à ces deux États, mais également la construction des infrastructures minières, ferroviaires et portuaires qui en constituent l'épine dorsale. On peut noter dans ce sens la construction des mines de fer d'Avimba, Badondo, Nabeba et Mbalam. La construction d'une ligne de chemin de fer à double voie, longue d'environ 540 km, qui va relier les 3 sites miniers congolais à la ville balnéaire de Kribi au Cameroun. La construction du tronçon ferroviaire Nabeba Tam, Avima, Badondo, un tronçon long de 149 km devant relier les 3 sites miniers et la construction d'un terminal minéralier d'une capacité de traitement annuel de 125 millions de tonnes de fer par an au port de Kribi. Le consortium en charge de ces travaux indique aujourd'hui que le chantier d'aménagement de la voie d'accès au site de Mbalam est totalement achevé. Reste plus que la déforestation du site se fasse incessamment, ce qui va permettre d'enchaîner avec la construction de la base vie et de l'usine.
À retenir de ce journal qui s'achève, âge 2024, les pèlerins camerounais regagnent leur pays par contingent. Le dispositif sanitaire est mis en place pour s'assurer de leur état de santé au moment où dans certains pays africains, des pèlerins sont testés positifs au coronavirus. Bonne nouvelle, tous les pèlerins des 4 premiers contingents sont en bonne santé. Projet intégré Nabeba au Congo et Mbalam au Cameroun, la première production industrielle de fer annoncée au mois de novembre 2024. En sport handball, la 3e journée du championnat national d'élite prend fin ce dimanche. À l'affiche, 5 matchs au complexe de l'université de Yaoundé 1. Chrétien Foucault, Fatimé Bintou Akoun, Serge Gervais Foisquet, Marie-Monique Mbozo, Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres.